France Culture.
Merci cher Arnaud et à samedi prochain. Et vous écoutez France Culture. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil pendant 10 ans, mais au moins je m'évadais. Jean-Pierre Dionnet, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Il y a des métaux qui jamais ne rouilleront, ceux dont nos rêves sont faits, diront certains, ceux qu'on martelait 12 ans durant, entre 1975 et 1982, mois après mois, les forgeurs de rêves, de métal hurlant entre science-fiction à tout va, expérimentation graphique à tout crin, humour splatch et érotisme trash, métal hurlant à tout chamboulé, tout saturé, tout pulvérisé. Une superbe exposition visible à Tourcoing, l'hospice d'Avray, témoigne de cette saga, visite pas à pas avec ce co-commissaire Bruno Girvaud. Chronique en second temps d'émission, signé Esther Teillard et Antoine Guillot. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui rend ce soir hommage à Métal Hurlant. Il y a pas mal de temps, peut-être 20 ans, on avait salué la renaissance du magazine. Et ce soir, on salue ses 50 ans et cette éternité naissante. Au moins, c'est déjà 50 ans et toujours aussi vivant. Donc bienvenue dans ce Mauvais genre spécial Métal Hurlant. Bonsoir Esther Teillard.
Bonsoir François.
Carne continue sa marche triomphale.
Carne continue, Carne survit au printemps.
Voilà, c'est l'essentiel. On peut vous retrouver dans les salons du livre. Le prochain, c'est
la Comédie du Livre, voilà, à Montpellier.
Absolument.
Le 16, 17 et 18 mai.
Très bien, c'est noté. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir François.
Alors Antoine Guillot, que peut-on dire de cette exposition avant qu'on laisse parler avec un lyrisme et une érudition jamais pris en défaut, Bruno Girvaud?
Alors d'abord, vous me permettrez de vous corriger. Vous avez dit 1982, c'est jusqu'à 1987 version de Métal Hurlant. Mais effectivement, c'est un métal qui ressurgit régulièrement à la surface. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette exposition? Eh bien d'abord que c'est une exposition qui est bien accrochée. Et c'est pas souvent dans la bande dessinée qu'on a un commissaire d'exposition qui pense à comment ça va être vu, comment est-ce que ça va être accroché. On pouvait faire confiance à Bruno Girvaud, auteur notamment de cette extraordinaire exposition. Il était une fois Walt Disney au Grand Palais. C'était il y a presque 20 ans déjà. Je crois qu'on
Et on avait fait une émission avec Pierre Lambert.
On avait visité tout ça. Et on a vraiment donc un historien d'art qui s'intéresse à la bande dessinée. Alors, il s'y intéressait depuis longtemps, mais c'était un peu un amour secret pour lui. Et là, il donne la pleine puissance de ce qu'on peut faire avec des planches accroché sur un mur, parce que souvent les expositions de bande dessinée, malheureusement, ça se réduit à des livres collés au mur et que les gens lisent. Là, il y a un vrai effet de masse très, très impressionnant et qui raconte réellement, effectivement, l'histoire de cette revue qu'on associe un peu trop rapidement à la science-fiction des années 70, alors que s'y sont inventées beaucoup de choses complètement en phase avec l'époque, et notamment le début des années 80, ce qui a pu être à la fois le rock alternatif et un néoclassicisme qui était un incarné, donc pour le premier par Margerin, par exemple, grande star créée par Métal Hurlant à l'époque, et de l'autre côté par Yves Chaland, dont l'influence se fait toujours sentir aujourd'hui.
Il y a également un moment précieux sur Anana.
Oui, alors ça, c'est une des choses les plus rares. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller jusqu'à Tourcoing. C'est que Ananas a été ce surgeon de Métal Hurlant, journal féministe de l'époque, mais féministe très punk, qui a eu beaucoup maille à partir avec la censure parce que c'est un journal qui ne s'interdisait rien. Et ces planches, on les a très, très rarement vues. Celles de Nicole Claveloux sont un peu plus connues, mais beaucoup d'autres sont à découvrir. Elles sont d'une grande beauté. Il serait temps que soit édité une intégrale des numéros d'Anana pour qu'on puisse vraiment prendre mesure de la puissance graphique et percussive et percutante que ça a été à l'époque.
Voilà, puis si on veut rééditer un jour en un volume les 9 numéros d'Anana,
on attend.
Il n'y a pas de problème, on sera là pour en témoigner. Eh bien, merci pour cette mise en appétit, mon cher Antoine. C'est une heure de train pour aller à Tourcoing, si on est parisien.
Oui, à peine une heure de train jusqu'à Lille, puis 5 minutes jusqu'à Tourcoing.
Voilà. Ben écoutez, prenons les 1h05 de train. On est parti. Donc il y avait Antoine Guillot, il y avait bien évidemment Laurent Polleret et cap Tourcoing, cap Métal Hurlant.
Bah, l'histoire de Métallurgin, c'est une histoire un peu de blagues et de débilité au départ. On était un groupe de copains, certains travaillaient à pilote, d'autres ne travaillaient pas vraiment. Et on s'est dit, faisons un journal, en n'ayant absolument, mais alors absolument aucune idée de ce que c'est qu'un journal. Alors le numéro 1, il était formidable, il a été très beau. On a mis un an à le faire. C'est-à-dire que pendant un an, on a préparé toutes les bandes du numéro 1, on a préparé soigneusement les textes, etc. Et on a eu un numéro génial. Le numéro 2, par contre, c'était terrible, parce qu'on a eu 3 mois pour le préparer. Et le numéro 3, etc. Il y avait Giraud, qui était dessinateur de Blueberry, et qui voulait devenir Moebius, devenir un autre dessinateur, incognito, repartir à zéro, etc. Il y avait Druyer, qui faisait de la science-fiction, et qui avait des problèmes, parce qu'il a fait une ou deux histoires plus violentes, plus dures, et qu'à pilote, on disait « Ah, les gamins, ça leur plaira pas ». Puis moi, je m'étais carrément fait jeter de pilote, avec des histoires fantastiques, on faisait toujours du fantastique, de science-fiction, toujours de la science-fiction. Et on faisait partie de ces gens qui avaient acheté Les Fleuves Noirs, tous ces livres des années 50, qui étaient des fous de science-fiction, et qui se demandaient pourquoi ça ne marchait pas.
Bonjour Bruno Girvaud.
Bonjour.
Commissaire de l'exposition Métal Hurlant, 50 ans et déjà immortel, donc à Tourcoing. On ne va pas en dire trop sur l'endroit où l'on est, qui est un endroit totalement sidérant, puisque vous avez réussi à fondre l'esthétique jésuite et l'esthétique métal, mais on n'en dira pas plus, on garde le commentaire pour la fin. Première question, donc comment avez-vous un petit peu structuré le propos, sachant que l'aventure métal continue, que beaucoup de témoins importants et d'acteurs essentiels sont encore là, à commencer par notre ami Jean-Pierre Dionnet. Donc il fallait à la fois gérer une mémoire du passé, un présent fort, et puis des archives vivantes.
Alors je ne me suis pas posé ces questions tout de suite. J'ai voulu, en bon conservateur de musée et scientifique, partir de la matière. Et donc, comme je les avais, j'avais tous les numéros de Métal Hurlant, je les ai tous relus. Donc les numéros spéciaux, les revues satellites, Anana, Rigolo, Métal Aventure. Donc pas loin de 15 000 pages. Avant de me faire une religion sur l'organisation de l'exposition. Je savais qu'il fallait évoquer les deux, que Métal Hurlant se conjuguait pas seulement au passé, mais aussi aujourd'hui, avec une renaissance, et je savais que ça serait la fin de, ou à peu près la fin de l'exposition. Mais j'ai d'abord compulsé pour me remettre, même si je suis de la génération Métal Hurlant, pour me remettre dans l'ambiance de cette revue vraiment hors norme, et que j'avais un peu oublié, notamment là, toute la partie rédactionnelle, qui n'est pas évoquée dans l'exposition, ou très peu, mais également qui est très importante pour comprendre l'esprit métal. Et c'est comme ça que j'ai pu décider de la façon dont j'allais structurer l'exposition. Et donc, plutôt qu'avoir un point uniquement chronologique, on part de 1975, la naissance, jusqu'à aujourd'hui, la renaissance, je l'ai abordé de façon plutôt thématique, ou chronothématique, mais plutôt thématique. Il y avait vraiment des choses qui ressortaient, l'esprit du début, la science-fiction, et puis la diversification, le fait que, à partir de cette matrice SF, devient un peu rock'n'roll, puis humour, puis aventure, puis finalement tous les genres, tous azimuts, du bon ou du mauvais genre. Et c'est comme ça que j'ai structuré l'exposition et qui donc se trouve en 5 sections, plutôt thématiques.
Ben on va peut-être commencer par aller voir la première section, mais est-ce que en vous replongeant, vous avez essayé de retrouver précisément l'esprit de l'époque, c'est-à-dire faire comme si on redécouvrait Métal Hurlant, où il y a forcément un regard rétrospectif vu l'influence énorme que la revue a eue, et notamment dans le domaine du cinéma?
Alors j'avais cette double attitude qui était à la fois de le redécouvrir de A à Z, mais néanmoins, comme tout bon historien de l'art, j'ai fini par avoir un regard rétrospectif. C'est-à-dire en me demandant, et notamment ça a été le point de départ de la sélection des planches et des dessinateurs et de ce dont j'allais parler, c'est-à-dire d'avoir un regard qui d'ailleurs pratiquement n'existe pas, rétrospectif sur l'aventure Métal Hurlant. Alors, en comprenant évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est un mélange en fait, c'est un point de vue à la fois comme si on découvrait, pour quelqu'un qui ne connaît pas Métal Hurlant, je ne sais pas, qui a 20 ans aujourd'hui, en partant de la naissance, mais quand même avec un tri, une sélection, je dirais, inconsciente qui faisait que j'ai structuré, j'ai fait ça comme si j'aurais fait une grande rétrospective d'un grand mouvement artistique. Il m'est arrivé de faire d'autres expositions que de la BD. Et voilà, c'est ça le fruit. Donc c'est un mélange de, c'est une période que j'ai vécue moi-même, en fait. Du coup, il se trouve que j'ai fondé en 77 un fanzine de BD qui s'appelait 666 avec des amis. J'ai dessiné moi-même. Heureusement, j'ai arrêté très vite parce que j'étais très médiocre dessinateur. Mais ce que je veux dire, j'étais au 1er, 2e, 3e, 4e festival d'Angoulême. Donc c'est une période que j'ai vécue. Et pour moi, Métal Hurlant, c'était la référence absolue pour quelqu'un qui voilà, espérer dessiner. Et donc j'ai voulu avoir à la fois le regard de celui qui a vécu cette période de l'intérieur, même si je n'ai pas approché à l'époque, sauf de très loin à Angoulême, les gens de métal. Et puis le regard rétrospectif, celui de l'historien de l'art, qui va apporter un regard plus objectif pour voir l'écume, ce qui finalement est passé dans, ou qui n'était pas nécessairement très réussi dans métal, parce que c'est très inégal, métal. Et puis ce qui est resté au sommet, c'est-à-dire les auteurs qui finalement traversent le temps, et pour certains qui sont devenus des maîtres de la bande dessinée aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans mon regard, qui en plus est un regard d'historien de l'art, qui a travaillé sur d'autres disciplines, c'est de structurer la pensée, c'est d'essayer de trouver quelle est la ligne, peut-être qu'est-ce qui reste de métal, quelle a été son importance, et donc de travailler comme un historien. Et je pense que ça, c'est utile, d'autant que je me suis rendu compte que ça n'a pas été fait, même encore à ce jour. Les deux livres qui font référence, le premier sur la machine arrivée est uniquement un livre d'interview et puis d'éléments factuels. Et le deuxième, c'est le catalogue d'exposition de Landernau, la fondation, enfin, au fond Leclerc, mais qui comportait d'ailleurs pas seulement métal, mais aussi à suivre, et qui est aussi un livre presque exclusivement d'interview. Donc ce qui fait qu'on a le matériau brut, la parole des gens qui ont fait, parce que certains sont vivants, mais d'autres ont disparu. Et donc il n'y a aucun, à ce jour, il n'y a pas de catalogue dans cette exposition malheureusement, aucun analyse rétrospective sérieuse du phénomène métal, à la fois dans le monde de la BD, mais aussi, que c'est vraiment important, et c'est ce qui m'est apparu en explorant l'aventure Métal en Lampe, c'est l'importance, pas seulement dans la bande dessinée, mais d'une manière générale dans la pop culture, et même d'une manière générale dans les arts visuels du XXe et XXIe siècle. C'est fou le nombre de gens qui ont été influencés par l'esprit Métal en Lampe, par certains dessinateurs en particulier, évidemment, bon, il y a toujours Mébus et Truyer qui sont, mais pas seulement. Et ça, je crois que ça mériterait un jour qu'on repère, à la fois, on définisse l'importance de Métal en Lampe, aussi par l'influence énorme qu'elle a eue, pas seulement dans le champ de la bande dessinée.
À l'inverse, puisque vous parlez là en historien de l'art sur la bande dessinée, le fait d'avoir eu l'œil formé par Métal Hurlant, comment est-ce que ça a pu influencer votre manière de regarder l'art en général ? C'est-à-dire que comment l'historien de l'art que vous êtes a été formé par Métal Hurlant ?
Alors, là c'est une histoire personnelle qui est que longtemps j'ai cloisonné les deux univers. C'est-à-dire longtemps j'ai pensé que la BD, surtout dans le monde professionnel dans lequel je suis rentré, qui est celui des musées, puis des musées nationaux, parisiens, tout de suite, que la BD était à part. Voilà. Donc j'avais une sorte de scrupule, et même, faut l'avouer, jusqu'à pratiquement 40 ans, une sorte de honte à dire que je lisais de la BD, que j'adorais la bande dessinée. Voilà. Puis à un moment, je me suis assumé avec des goûts un peu singuliers dans le monde des musées, et j'ai commencé à placer la bande dessinée là où elle devait être, comme un art majeur, et donc l'introduire soit dans les expositions, soit comme dans des sujets à part entière. Et donc j'ai eu du, longtemps, j'ai dissocié les deux. C'est-à-dire que j'ai pas voulu, par souci de conformisme, je pense, parce que le milieu des conservateurs de musées parisiens est très élitiste et conformiste, hein, je peux le dire maintenant puisque je suis à la retraite, et que donc j'ai voulu essayer de me mettre dans le moule, et puis finalement j'en suis sorti en me disant mais non, la BD est un art majeur, et donc voilà, d'abord en étudiant parfois sur la question des sources, pour légitimer, c'est ce que j'avais fait pour l'exposition Il était une fois Walt Disney, là, se dire attention, c'est pas un sous-genre, c'est pas une culture seulement de masse, c'est quelque chose qui vient d'une culture extrêmement savante et élaborée, qui est nourrie d'images et qui suffit de reconstituer ce puzzle. Et je pense qu'on pourrait faire le même exercice avec Métal Hurlant, c'est-à-dire à la fois les sources auxquelles puise, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec certains des dessinateurs encore vivants, graphiquement, et c'est des gens cultivés, qui vont dans les musées, qui dessinent dans les musées. Et puis, aller de l'autre versant, c'est celui de comment ces gens vont finir par influencer non seulement la BD, mais aussi le cinéma, hein, principalement le cinéma, mais on pourrait dire même l'art contemporain. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est même un travail qui reste encore à faire. Ici, c'est plutôt rendre hommage à 350-400 dessinateurs. La sélection a été un crève-cœur, puisqu'il manque plein de gens importants, mais de dire quand même voilà quels sont les jalons de cette grande aventure de la bande dessinée et des arts visuels. Yeah. What is it good for? Absolutely. Nothing. Uh-huh. Yeah. What is it good for? Absolutely. Nothing. Say it again, y'all.
answer to me. Oh, oh, I despair.
Alors, une double question, Bruno Girvaud. La première, on est dans une salle titrée « Pagaille et science-fiction ». Donc, vous allez nous en dire plus sur la pagaille. En quoi Métal Hurlant est une pagaille et en quoi cette pagaille est intéressante ou alors cache un ordre secret qu'il faut dévoiler. Et puis, deuxièmement, les sources de Métal Hurlant. On s'était déjà rencontré sur les sources européennes de Walt Disney, les sources de Métal Hurlant, puisque Dionne est un lecteur absolument pharaonique. Il avait avec lui dans Métal Hurlant des gens comme François Rivière, qui sont des érudits dans leur domaine, littérature anglaise. Il y avait même Le Cri du Goimard, animé par Jacques Goimard, grand encyclopédiste de la science-fiction, professeur à la Sorbonne et normalien. Donc il y a des sources lettrées très abondantes et qui sont sans limite. Il y a des sources graphiques, des sources cinématographiques. Comment arrive-t-on à gérer d'abord la pagaille et puis après, que faites-vous de ces sources sans fin ?
La pagaille. La pagaille, elle est en fait matérielle. En réalité, elle est en apparence dans les esprits, mais je vais y revenir. Non, la pagaille, c'est juste qu'ils sont... À part Bernard Farkas, qui est dans les quatre fondateurs, mais qui va vite partir tellement c'est la pagaille, parce qu'il voit bien qu'on ne peut rien organiser sur le plan budgétaire, administratif, que les dessinateurs s'en foutent, ce qu'ils veulent, se dessiner, ce qu'ils ont envie de dessiner. Donc la pagaille, elle est là, et ça a mis en péril la revue beaucoup de fois, et assez miraculeusement, elle va quand même durer 12 ans. Avec des trous budgétaires, bon, je crois qu'ils ont laissé des ardoises, des Jean-Pierre... disait qu'il dormait pas, mais bon, au bout d'un moment, il s'habitue au fait que c'est un déficit perpétuel, alors que c'est plutôt, au début, c'est des ventes très faibles, mais après, bon, ça prend son rythme de croisière. Il faut préciser qu'il y a aussi les Humains avec des associés qui sont la maison d'édition et qui publient ce qui est prépublié dans la revue, et ça marche plutôt pas mal, mais c'est mal géré, ou c'est pas géré du tout. Jean-Pierre sait pas faire ça, Jean-Pierre c'est un rédacteur en chef, et les administratifs sont pas du tout considérés. Drouillet détestait Farkas, enfin il trouvait qu'il était inutile. Donc voilà, c'est ça la pagaille. Après, la pagaille intellectuelle, effectivement, comme vous le disiez, non, c'est pas du tout le cas. En réalité, c'est relativement bien structuré au départ, avec des gens qui ont une culture. Alors bon, il y a le cas de Dionne qui est, voilà, il aura l'occasion de le dire lui-même, enfin peut-être pas, mais moi je peux le dire, une sorte d'omniscience et d'érudition incroyable sur notamment tous les considérés à l'époque comme des genres, des sous-genres ou des produits de série Z, que ce soit dans le cinéma. En réalité, il est extrêmement érudit. Par exemple, dans le domaine de l'illustration européenne, c'est incroyable. Qui est un sujet qui m'intéresse. Il connaissait quatre fois plus de choses que moi, alors que j'ai travaillé longtemps là-dessus. Même chose sur le cinéma, toutes sortes de cinéma. C'est aussi un homme des paradoxes, avec des goûts juste pour provoquer, mais avec, c'est des gens qui ont une grande culture. Dionne est le cas extrême, mais tous les autres ont à peu près le même terreau que vous avez cité, celui de la science-fiction, littérature de science-fiction, et BD, et essentiellement américaine au départ, hein, les comics. Voilà, ils arrivent jusqu'en France. Il y a des lieux très précis, des librairies, des personnes, vous avez cité Goimard, qui sont déjà des érudits de la science-fiction, qu'ils écoutent, qui vont écouter, qui vont associer finalement à l'existence du journal, les rubriques, la partie rédactionnelle, hein, je l'ai dit, elle n'est pas évoquée dans l'exposition, mais elle est essentielle pour comprendre la culture Métal Hurlant. Voilà, donc c'est une pagaille matérielle, une pagaille intellectuelle apparente, où je dis ça part dans tous les sens, mais en réalité, ils ont tous un creuset. On pourrait d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, avec Jean-Pierre, on s'est interrogé un moment, sur la question des sources, c'est-à-dire pourquoi ils se mettent à la SF. Ben, la plupart sont biberonnés aux comics américains, mais pas seulement. Et ici, à Tourcoing, il y a eu des éditions absolument incroyable de littérature jeunesse, qui sont les éditions Artima. Et Artima, il y a plusieurs titres de SF, dès les débuts des années 50. Météor, Cosmos, et tout ça, ils lisent ça avidement. C'est des gens qui avaient donc, qui lisaient en adolescent à cette période-là, fin des années 50, début des années 60. Et ils connaissent tous ces titres, et ils ont tous lu la même chose. Et donc, ils viennent de la même culture. Simplement, Métal Hurlant, c'est le moment, la bascule, où après, pour certains, de passer dans Pilote, tout ce qui est très intéressant, mais encore de la BD pour adolescents, ils ont envie tous, au même moment, avec la même culture, de passer à la BD adulte, la BD art majeur, et la BD adulte au sens véritable, émancipée de toutes les contraintes possibles, narratives, graphiques. Et ils font exactement ce qu'ils veulent, voilà, sans tenir compte ce qui va leur valoir plein de mésaventures, comme les comités de censure, l'interdiction des antennes mineures, qui vont mettre en péril aussi le journal sur le plan économique.
Alors, le grand apport de Métal Hurlant, c'est aussi, quand vous dites qu'ils veulent passer à la BD adulte, c'est une BD qui va se libérer aussi du récit, qui va être par moments purement graphique, et souvent improvisé. Et là, on est devant un mur, on le voit à la fois du Andreas sur le Métal Hurlant tardif ou du Casa sur les débuts de Métal Hurlant. Comment est-ce que vous avez pensé l'accrochage, justement, en historien d'art que vous êtes? Parce qu'on peut voir de loin tout ça. C'est du carré, un rond au milieu, du carré, du carré, du carré. Vous avez pensé vraiment en question de forme?
Oui, absolument. Alors, un peu comme chez Jean de Métal Hurlant, moi je fais de l'accrochage de façon... alors d'abord très raisonnée. La salle a une thématique, il y a plutôt les gens qui sont au tout début, mais pas seulement. Et ensuite, quand j'accroche, j'ai une idée, après 40 ans d'exposition, bon, j'ai une idée dans l'espace de ce que ça peut donner. Et puis il y a le moment de l'accrochage. Et là, il y a une forme d'improvisation qui on fait pas nécessairement exactement ce qu'on avait en tête. Et là, l'historien de l'art est rattrapé, c'est-à-dire celui qui peut faire des expositions, je sais pas, sur Monet, et auquel cas, c'est les formes qui vont... Et donc là, j'ai réagi, j'ai pas pu m'empêcher de réagir en commissaire d'exposition, c'est-à-dire travailler sur les formes. Et en fait, c'est d'une certaine façon implicite, c'est celle de dire c'est de l'art. C'est-à-dire, j'accroche un mur du Casa comme j'accroche un mur de Claude Monet quand je fais une exposition Monet. J'ai une espèce de réflexe parce que, en fait, je suis face à des œuvres. Et donc, oui, il y a une partie esthétique. Alors, j'essaie de tenir, en l'occurrence, vous parlez d'un mur où il y a 8 Casas absolument éblouissants. En plus, je n'avais pas eu la chance parce qu'il vit quelque part au-dessus de Montpellier. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Et donc, j'ai travaillé par image, m'envoyé des images. Et puis quand j'ai vu déballer, waouh, c'est vraiment graphiquement, voilà. Donc vous parliez aussi du graphisme, c'est vraiment tout pour le dessin. Et ça, c'est la révolution. C'est-à-dire la narration, à la limite, on s'en fout, et ils l'écrivent, mais noir sur blanc dans plusieurs éditoriaux, parce qu'il y a une sorte de polémique pour une BD plus littéraire qui d'ailleurs va donner à suivre ensuite, qui est OK, vous dessinez super bien, mais vos histoires, ça sent que ni tête, on comprend rien. Et Dieudonné, Moebius fait aussi un texte sur ce sujet, Druyer, disant ouais, on revendique nos histoires, qu'on comprenne rien, parce que ce qui prime là en ce moment pour nous, c'est le dessin. Et donc effectivement, graphiquement, alors là, c'est la révolution. C'est-à-dire que là, ils explosent tous les codes, tous les genres, et ils respectent plus les règles habituelles de la bande dessinée. C'est-à-dire un début, une fin. Est-ce qu'on fait une fin fermée, une fin ouverte? Non, on s'en fout. C'est graphiquement, ça, on ouvre la page on est ébloui par la qualité du son. De Druyer, par exemple, mais pas seulement. Voilà. Et donc, ils revendiquent au début. Après, on va voir les choses s'améliore en fait, donc on commence à avoir des grands récits, je sais pas, les Dominique Hay qui ont des BD plus classiques à la façon franco-belge, mais au début c'est revendiqué, c'est l'histoire à la limite, on s'en fout, nous on est des dessinateurs.
Continuer notre déambulation avec une nouvelle salle, Bruno Girvaud, dont on attend beaucoup puisqu'elle est quand même titrée « Quand les bananes ont remplacé les antennes des Martiens ».
Alors j'aurais aimé trouver ce titre, mais en fait c'est Franck Margerin qui l'a écrit dans une interview justement. Je ne sais plus si c'est le catalogue de Landerneau ou le bouquin de Marmontier et Poussin. Il dit, et c'est une façon amusante de dire, qu'à un moment Jean-Pierre Dieudonné se rend compte que la science-fiction, c'est effectivement la matrice, l'ADN de la revue, mais que, en fait, ça pousse de tous les côtés. Il y a des dessinateurs qui arrivent de tous les horizons, des jeunes, des moins jeunes, et l'humour, et notamment avec ce qu'on appelait la ligne crade, va faire son apparition. Et donc oui, c'est une formule de Margerin que j'ai voulu garder comme titre de la section. On entre dans cette salle qui est consacrée à deux genres, puisque dans une mission comme la vôtre, on va parler de genres qui sont donc l'humour et l'aventure. Puisque c'est après la SF, et puis, on ne l'a pas évoqué, mais et la BD rock, parce qu'il y a vraiment une BD rock, et ça, c'est une marque de fabrique de métal hurlant.
C'est un apport de Philippe Manœuvre, notamment, qui venait de Rock and Folk et qui arrive pour seconder Jean-Pierre Dionnet.
Absolument. J'en ai pas encore parlé. Mais effectivement, métal hurlant, c'est un binôme. Assez rapidement, Philippe Manœuvre va arriver. Il n'est pas là au début, il n'est pas là parmi les fondateurs. On l'envoie, j'espère, quasiment stagiaire de Rock and Folk. Et puis pour... Peut-être qu'il y a quelque chose à faire à Métal Hurlant. Et en fait, il va s'installer et il va devenir... Ils vont former un binôme totalement improbable, mais au fond, très fonctionnel, qui fonctionne bien. Hein. Jean-Pierre Dionnet est plutôt celui qui arrondit les angles. Voilà, il déniche des talents. Et puis, Philippe Manœuvre est plutôt très carré, très pragmatique. C'est oui, c'est non. Toi, non. Toi, oui. D'ailleurs, il s'est pas fait que des amis hein, parmi les gens de Métal Hurlant, parmi les dessinateurs, parce que quand il n'aime pas, il... C'est tu dégages, mais effectivement, il va avoir une importance capitale puisque c'est lui quand même qui va introduire l'esprit rock puisque c'est son domaine particulier. Donc la musique va être très importante dans Metal. Hein. Voilà. Donc en fait, Metal, au bout de un an, deux ans, va s'équilibrer, va devenir une revue complète à la fois sur plan rédactionnel, avec plein de rubriques, avec et puis tous les genres de la BD pratiquement vont être représentés. Et donc l'humour et l'aventure. L'humour, c'est plutôt des formats courts au début, en tout cas. Et avec son deux bandes, mais je dirais il y a deux bandes dans l'humour, hein, on pourrait peut-être y revenir. Et puis l'aventure, parce que ça permet de fidéliser les lecteurs, c'est-à-dire des récits au long cours. Hein, on a bon, le cas de Dominique Hay, il y a Pichard, bon, qui fera qu'une histoire, mais ou Claire qui va se mettre, parce que lui, Claire, Serge Claire, il a fait tous les genres, qui vont faire des récits longs avec des livraisons plus ou moins régulières. C'est le boulot de Jean-Pierre Dionnet de presser les auteurs pour rendre leur planche, mais donc qui font des récits au long cours, qui ensuite font des albums. Voilà. Et donc la revue va s'équilibrer avec le temps, donnant la place finalement à toutes sortes d'auteurs et toutes sortes de gens.
Toutes sortes d'auteurs, y compris des grands anciens. On a vu dans la salle précédente, on en voit une ici, les grandes planches toujours très spectaculaires de Paul Gillon. Pichard vient faire un tour, mais c'est aussi toute une génération avant qui se retrouve dans Métal Hurlant. Et vous mettez ça en scène aussi, comment on peut mettre du Pichard d'un côté, du Serge Clair de l'autre, et ça fait revue.
Et oui,
c'est là, au sens cabaret.
Je pense que c'est le talent de Dionnet et Manœuvre. C'est que, alors en l'occurrence sur les anciens, c'est plutôt Dionnet, parce qu'il les connaît, il les admire, et il va les chercher. C'est un peu son job. Hein. Au départ, il y a quatre fondateurs. Farquin s'occupe plutôt au début des finances et l'administration. Drouillet, Meubus, c'est la caution graphique et ils vont exploser comme auteurs de SF. Et puis, il y a Jean-Pierre Dionnet qui donc va chercher des auteurs, donc des jeunes, qui essaient de déceler des talents. C'est aussi ce que fait Manœuvre. Et puis, il va chercher des grands anciens. La génération précédente de la BD réaliste. Des gens qu'il admire, déjà. Et que d'ailleurs, comme tout, c'est comme tous les autres personnes de Métal Hurlant. Et c'est ceux que vous avez cités. Donc c'est Raymond Poilievre. Pour lequel il va d'ailleurs fournir des scénarios. Hein, Thiriel. Et puis, Paul Gillon. Paul Gillon étant probablement le maître absolu dans cette génération-là. Mais même, je dirais, de manière générale, dans la BD française réaliste. Et donc, il va les chercher. C'est des gens qui, à ce moment-là, sont non pas tant en perte de reconnaissance, ils sont plutôt au sommet de leur art, mais ils s'ennuient. Ils s'ennuient et ils voient cette génération qui monte, qui fait exactement tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Non pas sur le plan graphique, puisque là, ils sont déjà des maîtres, mais sur le plan narratif. Et donc, ils vont s'éclater, pour Gillon, en continuant les naufragés du temps, mais avec plus de liberté dans le ton, et puis créant des histoires... propre à Métal, les Léviathans, et c'est une planche qu'il y a dans cette salle. Et on voit bien que tout, c'est ce que vous disiez, c'est que ça, à ce moment-là, ça fait revue. Des générations qui se parlent, qui se répondent et qui s'estiment, des jeunes qui vont vraiment se former même avec la revue, comme Serge Clair, et puis d'autres comme Poilievre, Gillon, un peu Pratt, mais assez peu au final, qui vont apporter l'art de la génération précédente, et donc ils vont s'inscrire dans une sorte de continuum qui va avoir un bel équilibre. Et c'est là, à ce moment-là, que la revue, c'est le plus beau moment de la revue, où il y a un peu tout ça. Après, on va voir arriver d'autres auteurs, dont certains extrêmement intéressants, mais c'est effectivement le talent de Dionnet et Manœuvre, c'est cet équilibre. Voilà. Il n'y a pas que des jeunes, il y a des auteurs déjà confirmés, comme Drouillet et Meubus, qui vont vraiment là prendre leur envol, et puis des anciens qui vont rejoindre l'aventure métal.
J'aimerais qu'on revienne sur l'humour de Métal Hurlant. Vous disiez qu'effectivement, le graphisme et le plaisir de dessiner tout ce qu'on veut dessiner l'emporte sur la cohérence et, je dirais, la, la tenue du scénario, c'est ce qui est déjà une forme d'humour. Mais de quoi est fait l'humour de Métal Hurlant ? Parce que là aussi, je reviens à la question des influences littéraires. C'est des lecteurs de Jarry, c'est des lecteurs du nonsense anglais, sont des amateurs d'Alphonse Allais et des slapsticks américains. Donc cet humour métal, est-ce qu'il confine plus à l'absurde, au non-sens, à une espèce de déraillage généralisé ou à, disons, d'un gag traditionnel ?
Alors, c'est un peu tout ça, en réalité, et avec un autre élément que cette culture d'une littérature un peu de l'absurde, j'allais dire, c'est l'esprit punk. Oui. Parce que ça, c'est essentiel. Toute cette bande-là écoute de la musique, va dans les concerts. Donc, il y a plusieurs boîtes à Paris extrêmement importantes où passe tout ce qui compte, le monde anglo-saxon, du rock et du punk. Et ils sont très proches de ces milieux-là. Donc c'est aussi ce qui les anime. Il faut dire aussi que c'est des gens qui consomment toutes sortes de substances. Pour certains, d'ailleurs, ça leur a coûté la vie. Ça fait partie de... il faut imaginer, on est à la fin des années 70, début des années 80. Donc une forme d'insouciance. Mais en tout cas, Et donc c'est une façon d'être aussi. Hein. Et la caractéristique aussi, c'est la transgression. Voilà, rien n'est interdit. Et en général, Jean-Pierre Denis ne censure jamais. C'est-à-dire, vous dessinez, vous écrivez absolument ce que vous voulez. Donc c'est ça qui les réunit. Après, il y a des questions. Curieusement, on pourrait se dire que tous ces gens-là s'entendent bien. Il y a des chapelles, même si tous transgressent. Mais graphiquement, il y a deux mouvements qui vont être antagonistes, qui vont former des bandes, littéralement. Une autour de Franck Margerin, qui est quand même la locomotive de l'humour, et aussi en termes de vente, dès l'époque, qu'on appelle plutôt la ligne crade. Les Max, les Wain, les Dodo et Ben Radis, Jeannot et Trambert, etc., etc. Tout ça, ils forment une bande, mais une bande de copains aussi, dans la vie. Ils sortent ensemble, ils font de la musique parfois ensemble. J'ai oublié Denis Cyr, il ne fait pas de l'humour, mais tout ça, c'est la même. Et puis, ce qu'on a appelé la ligne claire, qui va être emmenée par une figure emblématique, qui va mourir dans un accident de voiture assez rapidement, qui est Yves Chaland, et qui, avec les Têtes Benoît, Pétillon, vont avoir un dessin plus classique, mais alors pas moins iconoclaste. Hein. C'est-à-dire que eux, c'est même presque pire, puisque dans le cas de Chaland, par exemple, le jeune Albert, c'est un dessin très très franco-belge, et puis alors les histoires sont abominables, il dit des énormités. Voilà. Donc tous, ils ont un point commun, mais ils ont quand même graphiquement des lignes complètement différentes. Donc tout ça forme l'humour Ménage Hurlant, à la fois un humour puisant dans une littérature, une littérature de non-sens, comme vous le disiez, et puis une culture punk rock très forte, un mode de vie très trash. Et pour certains, ce sont des météores. Hein, ils vont. Et graphiquement, pour certains, la ligne crade, c'est littéralement la ligne crade. On dessine vite. Après, quand on y regarde de près, des gens comme Max, ce sont des dessins assez élaborés. Mais on a l'impression d'un dessin, je dirais pas enfantin, mais qui est pas du tout à la hauteur de ce que quand on voit du Mébius, tout le monde est absolument écrasé par la virtuosité technique. C'est un autre dessin. Et le métal, on disait, ça fait revue. Il y a ça. Il y a la SF extrêmement poussée. De Casar, et puis on a Charlie Schlingo, je ne l'ai pas cité, qui est quand même présent. Voilà. À un moment, tout le monde veut être dans métal, même si c'est une apparition comme le grand Alexis ou Charles Burns qui est dans cette salle. Tout le monde, à un moment, veut être dans métal, même si c'est une histoire pour dire j'ai été publié dans la revue Metal. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knock on merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief, one says sun and one says sea. A.M. and F.M. the P.M. too. Turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence.
Alors il y a une troisième bande, je ne sais pas si ça s'entendait très uniforme. Enfin, quand même, vous avez parlé des disparus à cause de la drogue. Et il y a eu notamment Arnaud, mort d'une overdose, le dessinateur d'Aleph Tao, qui fait partie de ces héritiers de Moebius au sein même de la revue. C'est ce qui est très frappant, c'est que très vite, on voit en face de nous une planche de Batty, par exemple, et on pourrait parler d'autres épigones moins doués. Mais très vite, la revue génère aussi presque son propre académisme.
Il y a tous les cas de figure dans Médaillon. C'est-à-dire ceux qui vont naître, grandir et trouver leur style. C'est le cas de Serge Clair. Ça, c'est fascinant. C'est pour ça que d'ailleurs j'en ai mis autant. Je me suis demandé à un moment, quelqu'un m'a dit, mais t'as mis trop de Serge Clair. Non, c'est parce qu'en fait, il est là depuis le début, il a à peine 17 ans. Et son style va évoluer. Alors au début, il fait un peu du Will Eisner, puis techniquement, graphiquement, puis il cherche. Il fait de la SF, mais il est pas très à l'aise dans la SF, mais il s'en sort pas trop mal. Et donc voilà, on a ce type de dessinateur qui sort de ce que j'appelais moi les bébés métalliers là. C'est presque le cas de Marjorie aussi, hein, qui va trouver sa marque. Voilà. Et puis il y a ceux qui vont à la fois ceux qui vont pas réussir. Vous avez évoqué ceux qui avaient moins de talent en s'inspirant de Moebius, parce que Moebius. Alors, Druyer a finalement pas tant donné d'épigone que ça, parce que c'était tellement personnel, tellement baroque, tellement puissant, tellement hors norme que il n'y a pas tant de suiveurs, Druyer. En revanche, Moebius, lui, il a été vénéré. Et donc, il a donné, comme ça, des simili Moebius. Certains très doués, alors, Marc Batty, hein, il y a une très belle planche. Et puis surtout Arnaud, que vous avez cité, à Lefto, il fera plein d'autres choses. Il fait plein d'autres choses dans Metal, notamment dans les numéros spéciaux. Vraiment très doué, et qui, je pense, s'il avait vécu plus longtemps, aurait sans doute trouvé une maturité et probablement un style plus personnel. Mais c'est vrai que c'est très amusant dans Metal. Il y a ceux qui ont déjà leur style, soit que les Druyer et les Moebius, soit les plus anciens. Ceux qui se construisent un peu en cherchant comme Claire et d'autres. Ceux qui copient et qui auraient pu grandir, mais qui ont été fauchés pour toutes sortes de raisons. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une revue, c'est passionnant de voir. Et quand je disais, j'ai lu les 15 000 pages donc dans l'ordre chronologique, et on le voit, ça se voit, cette évolution se voit graphiquement sur certaines personnes. On voit Marjorin qui fait ses premiers essais de SF, parce que c'est ce qu'on lui demande, mais il n'est pas à l'aise dans la SF, donc il fait de la SF, mais déjà une SF rigolote, un peu décalée, mais il n'est pas à l'aise. Et puis tout d'un coup, Lucien apparaît dans une histoire un peu de façon périphérique, et Manuel lui dit, ah ben, ça... Et puis en plus, il sent que ça va rentrer dans sa... logique de BD Rock, ça, tu devrais creuser, c'est ça, voilà. Et donc, paf, et là, il émerge, il grandit, et puis après, il fait plus que grandir, puisqu'il va devenir quasiment Marjorin, et du début jusqu'à la fin, comme Claire, comme quelques-uns, et va devenir quasiment une des locomotives de vente. C'est-à-dire, c'est un des plus populaires, et c'est un de ceux qui vend, comme dit Jean-Pierre, plus de 100 000 albums par album. Donc, déjà, voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir comment Metal a été une sorte de pépinière, d'auteurs de tout type, mais qu'elle a généré son propre style avant même de disparaître. On disait, il y a des phénomènes endogamiques où les gens sont tellement impressionnés par Moebius et Druyer qu'ils vont essayer de faire comme eux.
On continue avec vous, Bruno Girvaud, donc maintenant direction Anana, avec là, effectivement, des œuvres que l'on voit rarement et qu'on est... tout à fait heureux de découvrir. Donc, c'est là. Quelques mots sur Anana, Bruno Girvaud.
Alors, plus qu'Anana, la section parle des femmes dans Métal Hurlant et dans Anana. Parce que ça, c'est un phénomène. Ce qui apparaît quand on relit Métal dans sa globalité, c'est que c'est essentiellement des hommes qui travaillent dans Métal. J'ai compté, hein, il y a à peu près 350-400 collaborations, j'entends simplement sur le plan du dessin, dans Metal, et il y a au total 15 ou 20 femmes. Donc on est vraiment dans le rapport de l'époque, c'est-à-dire très peu de femmes dans la bande dessinée. Et par ailleurs, on pourrait presque qualifier Metal Hurlant de sexiste, si on regarde vraiment les couvertures, c'est une fois sur deux, c'est une femme à forte poitrine, très fortement dénudée. Mais... curieusement, cet esprit libertaire va jusqu'à donner la parole aux femmes, mais comme des égaux. Et c'est ce que il m'a paru, c'est que je trouvais qu'il y avait quelque chose dans Metal, mais aussi avec la création de cette revue, une sorte de météore, 9 numéros, Anana. Donc ça s'écrit A-H, point d'exclamation, Nana plus loin. Donc ça, c'est vraiment l'esprit Metal, le mauvais calembour. C'est ce qu'adoraient Moebius et Dionnet. Ils se faisaient des battles d'humour et de calembour de très, très mauvais goût. Et donc, elle travaille ce sont que des femmes. Donc Jean-Pierre Dunay, c'est sa femme de l'époque, Jeannick Guigrès, qui confie la rédaction chef, en réalité, et elle n'emploie que des femmes dessinatrices. Jean-Pierre Dunay et Phil Manner avaient déjà essayé d'introduire des femmes dans la revue Metal Hurlant. Il y en a, dont certaines d'ailleurs publient dans les deux, hein, dans Metal et dans... Mais il va laisser se créer un nana. Il dit, bah, vous voulez y aller, bah, allez-y, faites. Voilà. Et elles font un truc vraiment... moi, quand j'ai relu, j'ai dit, ouf, même à l'aune de... Même après 50 ans, publier... C'est-à-dire, c'est Metal Hurlant en puissance, disons, en termes de provocation.
Transgressif.
Ouais. De transgressif, c'est-à-dire... Les dossiers, c'est les dossiers, donc c'est très abordé de façon très argumentée. Donc ce sont des dossiers. Coup sur coup, elles envoient un coup la transsexualité, donc on est en 1976-77, la pédophilie, puis après l'inceste. Enfin, donc à la fois on a l'impression que c'est ultra féministe, mais en fait elles ne veulent pas du tout être considérées comme des féministes, elles veulent être considérées comme des femmes dessinatrices de BD. Et donc c'est le même ton que Metal, mais... vraiment
plus sociétal,
plus sociétal.
Tous les thèmes que vous nous donnez
à Metal, on est plus dans une espèce d'onirisme visionnaire. Là, on attaque sur, je dirais, les points faibles d'une société, l'inceste, le passage des genres d'un sexe à l'autre. On est vraiment dans un, c'est presque de l'anthropologie, c'est plus de la bande dessinée là.
Alors c'est, je mettrai un petit bémol. Pour une raison, c'est que oui, les sujets sont des sujets sociétaux incroyablement modernes pour l'époque, car j'ai l'impression que c'est des femmes d'aujourd'hui qui parlent et qui dessinent. Mais dans la réalité du dessin et des histoires, finalement, elles s'en rapprochent de l'esprit de Metal Hurlant. C'est-à-dire, ça part de l'imaginaire. Hein. On traite des sujets, pour certains, difficiles, mais de façon assez poétique. C'est à la fois avec une crudité, enfin une franchise, mais aussi une dimension poétique. Et d'ailleurs, les dessinatrices qu'on voit pour certaines sur les murs, je pense notamment à Cecilia Capuana, qui était d'origine italienne et qui a été présentée à Jean-Pierre Dunay par Fellini, excusez du peu quand même. Mmh. Et puis Nicole Clavelot, qui était plutôt une illustratrice, qui est d'ailleurs toujours plutôt une illustratrice, mais qui fait la BD beaucoup dans les tout premiers numéros de Metal.
Et Chantal Montelier.
Et Chantal Montelier, alors qui est absente, mais pour des raisons qu'elle seule pourrait expliquer, parce que moi je voulais absolument qu'elle soit dans l'exposition. Et toutes ces personnes, alors Chantal Montelier, elle est très politique, très, elle aborde les questions franchement, oui. Avec d'ailleurs une position féministe incroyablement, d'ailleurs, au final assez mesurée, très intelligente, un graphisme très intelligent. Et puis il y a des autrices comme Nicole Clavoux, donc je citais Cécilia Capuana et d'autres, qui ont une approche frontale des problèmes, mais de façon poétique. Et donc en travaillant aussi sur cet imaginaire, parce qu'en effet, vous avez raison, Metal Hurlant, c'est ça, l'autre définition qu'on devrait donner, c'est comment on aborde tous les sujets, mais quand même au final, sur cette question de l'imaginaire. C'est le possible, tout ce qui est... au-delà du possible, et qu'on traite des sujets parfois de façon très provocante, mais en réalité, avec des moyens qui sont ceux en fait, de la poésie, de l'anticipation, de l'imagination. Voilà. Et donc les femmes dans Metal Hurlant, au final, elles ne sont pas si différentes des hommes. Et alors ce qui va se passer malheureusement pour elles, c'est qu'à force d'être tellement provocatrices, c'est que comme Metal au début, elles vont être interdites de vendre aux mineurs. Et là, pour Metal, autant ils avaient surmonté la crise, là, elles vont pas... Et au 9e numéro, on arrête parce que les ventes étaient faibles et que cette interdiction mineure va complètement tuer la revue. Chantal Montelier fera un très bel éditorial sur la fin d'une revue faite par des femmes, voilà, interdite par des hommes. Alors Jean-Pierre Dunay dit non, elle est aussi interdite par des femmes parce qu'il y avait des femmes dans le comité de censure, des familles catholiques ou... voilà, mais revue incroyable, et notamment les couvertures sont extrêmement impressionnantes. Donc voilà, quantitativement, c'est pas un phénomène très important dans l'histoire Metal Hurlant. Qualitativement, je trouve que même ces gars qui étaient potaches, un peu sexistes, avec finalement ont laissé la parole à des femmes et qui sont devenus leurs égaux, en fait.
Et notamment Trina Robbins et aussi Olivia Clavel, vous ne l'avez pas cité, Olivia Clavel du collectif Bazooka. Et il faut dire aussi à quel point Metal Hurlant était complètement en phase avec les grands mouvements graphiques, du graphisme au-delà même du dessin et de la bande dessinée de l'époque. Rappelons que c'est Étienne Robial quand même qui crée le logo Metal Hurlant, la première maquette, qui revient régulièrement, qui fait le fameux numéro 50 avec la tête de Jean-Pierre Dionne. C'est aussi un mouvement qui est en phase avec ce qui se passe artistiquement dans les années 70-80.
Oui, Philippe Ruyer, lui, considère Médaille Hurlante non pas comme une revue, mais comme un mouvement culturel. Et effectivement, moi, j'avais, à certains moments, je me demandais s'il n'y avait pas, comme il y a un impressionnisme, il n'y avait pas une métallurgie, je ne sais pas comment l'appeler, parce que ce n'est pas que de la BD. C'est vraiment un phénomène culturel, et vous avez raison, c'est qu'il est tellement, comment dire, concomitant, consubstantiel à sa période, qu'il absorbe aussi le cas de Bazouka, hein, qui s'est beaucoup exprimé dans les pages de Libération, enfin bon, qui a explosé la forme graphique du journal et qui a publié assez régulièrement, quantitativement pas autant qu'on pourrait le croire, mais qui va quand même graphiquement être très important. Et puis Olivia Clavel, dire Bazouka, c'est très singulier. Et comme dit Jean-Pierre Dionnet, Olivia Clavel, au sein du groupe Bazouka, est elle-même très singulière. Voilà, donc c'était une lesbienne militante, et avec un dessin très, très, à la fois trash, mais pourtant très élaboré, très artistique, puisqu'elle est sans doute plus autant artiste que BDaste, ou qu'autrice de BD. Alors je trouve que j'ai qu'une planche, elle n'a pas retrouvé ses autres planches. On a passé 2 mois à essayer de... voilà, il n'y en a qu'une, mais elle est très belle, et voilà, c'était Léo Royaume des Ombres. Mais elle a publié assez régulièrement dans Metal, et surtout dans Anana. Il y a pas mal de femmes dans Metal, et des femmes qui ont joué un rôle tout à fait étonnant, à la fois dans le respect de l'esprit de Metal, mais avec une singularité, une grande singularité.
Dernière étape de notre périple métalloïde, Bruno Girvaud, on va se retrouver dans le lieu où nous étions au tout départ. Alors, vous avez dit que Métal Hurlant...
On va préciser quand même qu'on est en train de faire le tour d'un cloître et que c'est dans cet endroit quand même très gracieux qu'on a vu toutes les horreurs présentées sur les murs.
Voilà, justement, vous nous avez dit que... Dans Métal Hurlant, il y avait des chapelles, donc on va terminer dans une chapelle, au sens où c'est une chapelle type Concile de Trente, l'art jésuite, avec des marbres qui chantent la gloire de Dieu et le rayonnement du Saint-Esprit. Mais vous avez quand même introduit dans ce lieu des éléments perturbateurs, signés Druyer et Moebius. Alors, on va découvrir tout cela, effectivement... Il y a la transfiguration de la Vierge à l'arrière-plan, mais il y a des masques païens et il y a des créatures lovecraftiennes à l'avant-plan.
On a fait un long parcours entre l'avant-dernière salle et cette chapelle, qui s'appelle Notre-Dame des Anges. Vous l'avez qualifiée effectivement de Saint-Sulpicienne, et très belle, hein, nonobstant, mais dans laquelle effectivement je me suis demandé assez tôt, avec Jean-Pierre, on s'est demandé assez tôt ce qu'on allait pouvoir mettre. Parce qu'on a quand même, après notre long parcours, digéré beaucoup de planches en 2 dimensions. Là, on est dans un espace, d'ailleurs, dans lequel on ne pouvait pas montrer de planches originales pour des raisons de conservation, trop de lumière. Et donc, longtemps, j'ai cherché, donc j'ai pensé d'abord mapping. Et puis, finalement, j'ai dit, bon, c'est un peu trop éloigné de la BD. Et finalement, on a découvert, j'ai découvert à quelques mois de l'ouverture, un collectionneur incroyable, la Fondation Boone, Philippe Boone, qui a racheté tout le fonds d'atelier de Druyer. Et qui donc se trouve à la tête d'un ensemble de sculptures, puisque Druyer, dans l'esprit d'ailleurs, c'est comme ça que le qualifie Jean-Pierre Dionnet, d'homme du 19e siècle, va travailler avec des artisans d'art, parfois de grandes maisons comme Dôme, pour tiffer à des tirages limités des sculptures, des objets, et effectivement très lovecraftien. Et dans cet ensemble, il y a une espèce de choc. Alors, choc de culture, mais finalement, visuellement, ça fonctionne pas si mal. Mais surtout, c'est des grandes pièces en 3 dimensions. Certaines sont presque, pour certaines, des pièces uniques de Druyer. Quelques objets Moebius, mais il y en a très peu pour une raison très simple. C'est autant Philippe Druyer a cultivé, tout ce qui est autour de la bande dessinée, traduire son univers en 3 dimensions, qui d'ailleurs s'y prête particulièrement bien. Autant Moebius, lui, n'aime pas ce qu'il appelle la parabidée. c'est la BD, c'est le dessin, et je ne veux pas de produits dérivés, je ne veux pas de figurines, je ne veux pas... Il se trouve qu'il y en a quelques-unes, elles sont présentes dans l'exposition, et pour certaines, il y en a, sont aussi des pièces uniques. Voilà, et tout ça forme une grande présentation, surtout c'est un grand hommage.
Oui, d'ailleurs ça s'intègre très bien, puisque vous l'avez dit, la dimension presque architecturale des dessins de Drouillet se prête à la troisième dimension, mais ça s'intègre aussi dans une architecture plus ou moins gothique, et ce qui est montré des représentations statuaires de d'Arzac, qui sont un peu bouffonnes presque, sont des statues polychromes, donc ça va très bien avec la Vierge et je ne sais qui est en face d'elle dans cette statue, et vous mettez Arzac en chair, alors comme ça, c'est lui qui prêche dans cette chapelle.
Alors ça, c'est la liberté du commissaire et qui installe. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu. En fait, on a curieusement installé, j'ai installé cette salle en à peine une heure, sur la disposition des pièces. Bon, j'avais formalisé dans ma tête, on avait déjà les socles, les vitrines, mais j'ai demandé à ce qu'on déballe tout d'un coup. Et des fois, vous avez une espèce d'inspiration. Alors, c'est peut-être divine, là, en l'occurrence, là, dans le lieu, même s'il est désacralisé. Il y a peut-être. Et donc, je me suis dit, tiens, ce Arzac, qui objectivement est fait de façon un peu plus amusante que réaliste, j'ai dit, quitte à jouer l'humour, on va le placer en chair. Voilà. Mais c'était pas du tout prévu. Pas du tout prévu. Et voilà. Et par ailleurs, l'esprit Drouillet, c'est vrai, dans cette salle, il y a quelque chose chez Drouillet de... Alors, je ne dirais pas de religieux, mais en tout cas de métaphysique, et qui est très présent, et les masques de Salambo, tous ces dieux, déesses, mais bon, païens, ou totalement...
adorateurs de Baal.
Imaginaires, oui, certains diaboliques. Aussi, une sorte de pas de médiéval fantasy, mais presque, ces grands chevaliers. On a placé deux grands chevaliers, de plus de 2 mètres, de part et d'autre de l'hôtel.
Oui, on sait que Jean-Pierre Dionnet était un élève des oratoriens, donc on termine. Bruno Girvaud, merci de cette visite par les sources religieuses de Métal Hurlant.
C'est une fin, finalement, à l'image de Métal, c'est-à-dire une sorte de syncrétisme où tout se mélange, la religion, la métaphysique, l'imaginaire, l'humour, la dérision, voilà, l'esprit Métal.
Merci Bruno Girvaud.
Merci à vous François Angel.
Voilà, cette exposition donc est visible, je le répète, à la maison donc l'Hospice d'Avray, c'est à Tourcoing. Elle est visible jusqu'au 27 septembre 1925. Vous n'aurez donc aucune excuse si vous ne faites pas donc le trajet sur place. Et puis Mauvais Genre remercie pleinement Coralie Jugan, donc l'attachée de presse de cet anniversaire de Métal, et Pauline Zuckerdorf, donc qui nous a aidés et qui nous a permis donc de passer un excellent moment et une excellente visite. Deuxième temps de Mauvais Genre, chronique qui on commence avec vous, Esther Teilhard, et on va retrouver, ma foi, quelqu'un qui fait partie de notre ADN, de notre patrimoine, de notre cœur.
Chers auditeurs de Mauvais Genre, quelle immense joie que de présenter ce soir le Graal du Mauvais Genre, Stoumid. Le plus vilain garçon jamais reçu dans l'émission. Artiste brillant, parfaitement sulfureux, banni de la scène artistique pour cause farfelue. Et aujourd'hui gracieusement remis à l'honneur par les excellentes éditions belges Hors Bord, en tirage limité, avec une très belle préface de Xavier Gilles Néré. Dans ce petit recueil, vous trouverez 20 reproductions des étranges scènes de Stoumid, 20 peintures infernales qui décoiffront votre printemps. Qui est Stoumid ? Un peintre américain de 70 ans, terré dans un atelier de Kreuzberg à Berlin. Un peintre fabuleux, controversé, mis à l'écart. Stoumid, c'est le talent fou pour l'artiste discret, le déglingueur de bien-pensance, la couleur masochiste. Celui dont on dit que la peinture est crade, trop de nymphettes, trop d'animaux dans des positions équivoques. À cela, Stoumid répond « Mon travail rend les choses plus sales ». N'est-ce pas l'exacte définition de l'art quand il est bon ? Créer, c'est toujours salir. Rendre dégoûtant notre quotidien immaculé. De Nabokov à Balthus, en passant par Lynch ou certaines orgies de Huysmans, Stoumid est un diamant parmi les cailloux austères de l'art contemporain. Son univers dérange car il défie toute morale, prend racine dans la fange, la vie secrète du fadasse voisin, les perversions du petit notable gris, l'univers inquiétant des chambres d'enfants, les rêves indélicats et les fantasmes avilissants. Ses toiles laissent une marque spongieuse, un goût rance, une odeur impure. On dit de Stoumid que ces scènes sont problématiques, que les femmes y sont représentées sous des âges trop jeunes, des postures dégradées. Je dis que c'est absurde. Chez Stoumid, l'homme est peu de chose face à la maîtresse-femme. L'homme est dessiné petit et diminué. Un nabo affaibli par la jeune Vénus, réduit en pâture, misérable et soumis. Dans les toiles de Stoumid, des poupées délicieuses dansent sous des jets d'eau. Une enfant embrasse un soldat en plastique. Un bonhomme se vautre dans des escaliers sous les jambes galbées d'une femme sans visage. Un colibri bleu se perche sur les épaules d'un homme sans qualité. Des pauvres bougres sont chevauchés par des femmes sublimes. Le monde de Stoumid est un monde bien bizarre, un monde de chanoines cruels et de corruption colorée, un monde mauvais genre. Il est important de rappeler que la campagne de harcèlement contre Stoumid et la maison d'édition marseillaise Le Dernier Cri est tombée à la trappe. Campagne, procès ou cancan de couloir chez Mauvais Genre, nous continuons à adorer Stoumid, à le défendre, le célébrer, le tatouer sur nos torses, car notre dicton favori est cette phrase du Marquis de Sade « Je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre et ceux-là me liront sans danger. »
Eh ben voilà, Antoine Guillot, elle est...
J'attends de voir Merci. Le tatouage sur le torse.
Merci Esther. Créer, c'est toujours salir. Voilà, bah une formule qu'on méditera encore longtemps. Oui, c'est vrai, c'est très bien que Stoumid ait enfin la paix avec cette affaire dont nous parlâmes dans une récente émission. Deuxième chronique avec vous, Antoine Guillot.
Oui, alors après les 50 ans de Métal Hurlant, à la fin de l'année, on va fêter célébrer en tout cas les 30 ans des accords de Dayton qui avaient mis fin à la guerre en ex-Yougoslavie. Deux livres en bande dessinée paraissent qui s'y raccordent parfaitement. Le premier, c'est la réédition, très belle réédition avec nouvelle traduction chez Gallimard, d'un livre qui était sorti il y a 10 ans chez Ici Même. C'était le Fatherland de Nina Bunievac. Fatherland, une histoire de famille. Nina Bunievac, c'est une autrice de bande dessinée canadienne, mais qui a vécu une bonne partie de sa vie en Yougoslavie avant qu'elle n'éclate. Pourquoi ? Parce que son père était un nationaliste serbe et même un terroriste installé au Canada et qui, de temps en temps, la nuit, quand il ne passait pas des nuits en beuverie, allait faire exploser des consulats yougoslaves ou s'attaquer à la communauté croate. Et la mère de Nina Bunievac est repartie au pays parce qu'elle était terrorisée à l'idée qu'une bombe explose dans sa maison. Et de fait, une fois qu'elle y est retournée, eh bien, le dit père s'est fait exploser tout seul dans son garage avec ses copains terroristes parce qu'il avait mal manipulé sa bombe. À partir de là, Nina Bunievac revient en fait aux origines de toute ce merdier yougoslave qui n'allait pas tarder à éclater à nouveau. Le tout avec son trait extraordinaire, son trait épais et la finesse de ses hachures qui donnent du volume à ses images. C'est tout à fait extraordinaire. Donc voilà, à relire si vous ne l'aviez pas lu à l'époque, et la nouvelle traduction est formidable. Fatherland de Nina Bunievac chez Gallimard. Et alors un autre livre qui s'y raccorde tout à fait, s'appelle « Jour de chasse » de David chez Gonzalez. David chez Gonzalez, ils avaient fait une bande dessinée extrêmement mauvais genre qui s'appelait « Mécanique du fouet » sur une maîtresse dominatrice ex-nonne au début des années 2000 dans un bordel parisien. Et « Jour de chasse », c'est un hommage direct aux parties de chasse de Christin et Bilal. Christin avait été le professeur de journalisme de David et ça raconte comment, eh bien, en 1992, le week-end, qu'est-ce qu'on fait quand on est serbe ? Eh bien, on met des fusils dans le coffre de sa voiture, on prétend faire une partie de chasse et en fait on va faire du nettoyage ethnique en Bosnie. Le tout raconté dans des gris, c'est un trait un peu à la Manuel et Fior, dans des nuances de gris qui montrent toute l'ambiance tout à fait saumâtre et indécidable de l'époque. Excellent livre paru chez Futuropolis, Jour de chasse de Dabitch et Gonzalez.
Merci Esther, merci Antoine. Eh bien, l'émission s'achève, l'exposition Métal Hurlant invisible jusqu'au 27 septembre 25 à Tourcoing, Stoumid l'indomptable aux éditions Hors Bord avec un texte de Xavier Gilles Néret et Jour de chasse de David chez Gonzalez, c'est aux éditions Futuropolis. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Paulry, Élise Leu, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Esther Théillard, Antoine Guillot et François Angelier vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera de Gabriel Witkop et d'Olivier de Sagazan.